France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
Eh oui, lundi de Pâques oblige, on va vous proposer de replonger dans les meilleurs moments de ce rendez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Et surtout, le plus important, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à venir témoigner, nous raconter vos histoires et vos expériences, car après tout, ce rendez-vous est avant tout le vôtre. On parlera du programme dans quelques instants. Mais d'abord, Maxime Lalinger qui va être bien entouré aujourd'hui pour nous parler d'un projet pharaonique, on peut le dire comme ça. Bonjour Maxime!
Bonjour François, oui, et je suis pas peu fier et je tiens vraiment à remercier nos invités du jour qui nous font le plaisir de nous accueillir aujourd'hui parce que, en effet, tout le monde s'est levé de bonne heure pour cette journée fériée et je tiens à les remercier. Alors, je suis en direct du cabinet Meyer, cabinet Meyer Architecture, c'est rue des Vosges à Strasbourg et qui a été sélectionné justement pour la reconstruction de la deuxième flèche qui nous prépare en fait un projet d'ampleur qui va être financé en partie par la CEA et par l'Europe, un projet qu'ils vont en partie nous révéler ce matin et c'est quand même un grand moment qu'on va vivre et j'en suis très heureux. On va regarder en détail l'idée du projet et je suis en compagnie du directeur du cabinet et de son designer et on va vous présenter ça jusqu'à 11h.
Voilà, on va en parler avec de nombreux spécialistes donc qui ont eu la gentillesse, on le rappelle, d'être présents aujourd'hui, lundi de Pâques et ça fait penser un petit peu à ces projets. Tiens, Astérix, Mission Cléopâtre par exemple.
France Bleu Alsace, à votre écoute.
Maxime Lalinger sur le pont en ce lundi de Pâques, capable en ce jour férié de nous faire découvrir des activités insolites, des sports qui vont faire leur apparition au prochain JO ou encore des métiers pas comme les autres. Aujourd'hui, c'est un projet complètement fou que vous avez décidé de nous présenter, Maxime Lalinger.
Oui, tout à fait. Et ça me permet aussi de vous présenter un métier que l'on connaît indirectement, celui d'architecte. Alors, je suis au cabinet Meyer, cabinet d'architecture à la rue des Vosges à Strasbourg. Et je suis en compagnie donc de Emilien et Conrad. Alors, on a Emilien qui est l'architecte. Bonjour, Emilien.
Bonjour.
Donc, Emilien Dupré, c'est vous qui donc êtes à la tête de ce cabinet. Merci de nous recevoir déjà ce matin. C'est sympa, ce jour férié.
Écoutez, je vous en prie.
Et donc, le cabinet Meyer. Un cabinet d'architecture, c'est quoi d'ailleurs?
Oh, un cabinet d'architecture, donc c'est un ensemble où nous décidons un petit peu de l'urbanisme et nous pensons l'habitat, voilà. Enfin, pour être au plus simple, voilà, je voudrais pas rentrer dans les détails, mais.
D'accord. Bon, en gros, c'est vous qui dessinez les bâtiments, j'imagine. À côté de nous, on a aussi Conrad de Chenet. Vous êtes vous designer. C'est différent du métier d'architecte. C'est quoi?
Exactement. En fait, on travaille en tandem avec les architectes pour insuffler des idées, harmoniser l'espace, insuffler un peu de la partie créative, on va dire, de tout ce qui est le travail urbain de l'architecture.
Alors, si je comprends bien, l'architecte, lui, va mettre en place le gros de la préparation et le designer va faire un peu le dessin, l'inspiration globale.
Voilà. Puis après, on travaille en amont, en symbiose, tous les deux avec le cabinet d'architecture. Nous, le designer et l'architecte travaillent main dans la main, mais le designer est plus s'occupe de la partie créative, pour faire simple.
Alors. Emilien Dupré, pour bien comprendre quand même auprès des auditeurs, parce que c'est quand même un gros projet qui a été en partie décidé, il y a encore des choses à finaliser. Là, on parle quand même d'un gros projet patrimonial, la deuxième flèche de la cathédrale de Strasbourg, un projet majeur. Ça s'inscrit comment dans votre carrière, dans votre cabinet, parce que être sélectionné pour quelque chose d'aussi gigantesque, c'est quand même une réputation, une renommée là qui vient avec.
Ah oui, bien sûr, je suis tout à fait honoré de ce projet qui est très ambitieux, qui est très émulsif, on va dire. Donc bien sûr, c'est un grand honneur de pouvoir participer à ce projet qui est aussi financé par le ministère de la Culture. Rachida est enchanté et moi aussi.
Eh bien, écoutez, on va parler aussi du financement parce que j'ai aussi cette question-là. Comment on finance un projet de cette taille? Et puis on va aussi regarder un peu plus les détails, les plans et tout ça, mon cher François. À tout à l'heure.
Ah bah oui, un projet passionnant. On va découvrir tout cela grâce à vous et merci encore à ce cabinet de nous recevoir. Un lundi de Pâques, c'est pas forcément évident sur France Bleu Alsace. Je vous rappelle, aujourd'hui c'est le 1er avril, c'est le lundi de Pâques. On part à la chasse aux œufs et puis vous allez avoir aussi le meilleur de votre écoute.
France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
Le meilleur jusqu'à 10h sur France Bleu Alsace, l'occasion de replonger dans ces délicieux moments que vous nous faites vivre chaque jour. Il faut avouer que quand le thème vous inspire, vous pouvez faire preuve de beaucoup de créativité. Comme pour cette émission qui avait comme thème la sexualité après 60 ans avec Marie-Fleur Lasland, sexologue et sexothérapeute à Strasbourg, qui vous accompagne pour vous aider avec le témoignage de Cécile qui nous signale qu'il y a aussi des problèmes de libido dus à la prise de médicaments. Et avec elle, on ne parle pas de cette fameuse pilule bleue, hein ?
Voilà, donc on parle de sexualité et on oublie l'incidence des médicaments que ça peut créer avec la sexualité, les médicaments.
Des traitements, en fait, vous voulez parler des traitements qui peuvent parfois être assez lourds.
Très lourds.
Et faire tomber la libido, Marie-Flore.
Bien sûr, les médicaments ont des effets secondaires, y compris sur la sexualité. Par exemple, les antidépresseurs peuvent avoir un effet sur la libido, pas systématiquement. Il faut toujours effectivement regarder un petit peu la notice de ces médicaments quand on a une difficulté sexuelle pour voir si le traitement pourrait pas en expliquer une partie.
Mais après, on apprend à vivre avec. Hein. On apprend. On se redécouvre différemment. Voilà. La vie de couple est toujours se redécouvrir. Se demander pourquoi on est tombé amoureux l'un de l'autre quand on est dans le gouffre.
Et c'est d'ailleurs la clé d'une belle sexualité tout au long de la vie, c'est l'adaptation. On peut pas éviter les problèmes de santé. Mais on peut essayer de faire avec, de s'adapter, d'en parler dans le couple et d'inventer des nouveaux moyens d'avoir du plaisir et pourquoi pas d'explorer un nouvel érotisme.
Maillère est avec nous aussi. Maillère, bonjour. Alors Maillère, je me permets aussi de vous demander votre âge, Maillère.
75.
Et vous vouliez nous parler de quoi exactement ?
D'amour, de tendresse et de sexualité. Pourquoi pas, hein ? En tout cas, ce que j'ai entendu tout de suite de... L'intervenant précédent, ça m'a beaucoup intéressé. L'impact des médicaments, notamment des antidépresseurs. Et alors, il y a deux sujets. Il y a la relation de couple. Moi, j'ai une épouse qui, me semble-t-il, parce que nos relations, comment dire, en termes d'échange pour parler de beaucoup de sujets, y compris de l'amour, de la tendresse, de la sexualité, sont très très difficiles. C'est quelqu'un qui se livre pas. Et donc, ça a été beaucoup à coup de grosses tensions que les choses se sont un peu stabilisées. Échanger, c'est de comprendre pourquoi ça évolue comme ça, mal. Donc, en général, si ça évolue bien, on n'en parle pas tellement, je pense. Mmh. Et puis, par exemple, par rapport aux problèmes d'érection, on a des médicaments qui sont très, très efficaces en ce qui me concerne. Mais par rapport à ce qu'on appelle l'anorgasmie, alors ça, c'est... Je reste un peu perplexe par rapport à ce truc-là. La seule solution que j'ai trouvée avec mon médecin, c'est de réduire, voire de supprimer tous les médicaments qui pouvaient être à l'origine de ça.
Et puis, il y a cette pilule bleue. Hein. Vous en prenez, vous, Maillère, par exemple ?
Ah oui, oui, oui. Je dirais que faut pas avoir honte de ça. C'est...
Bien sûr.
Mais des fois même, enfin, j'ai entendu dire que des gens, rien que le fait de les avoir à côté sur la table de nuit, ça suffisait.
Ça fait déjà l'effet, ouais.
Oui, oui, oui. Mais oui, bien sûr, moi j'en prends parce que les choses étant compliquées, que je ne vais pas rajouter une complication supplémentaire.
Bien sûr.
C'est un beau témoignage. Alors, ce que Maillère évoquait de sa difficulté de couple, par contre, c'est quelque chose qui peut concerner les couples de tout âge. Et j'ai des couples qui viennent consulter pour exactement la même difficulté et qui ont 25 ou 30 ans. Après, la petite pilule bleue, effectivement, c'est une belle invention. Hein. Ça a changé la vie de beaucoup de personnes.
C'était très Matrix, hein, quand on parle de pilule bleue.
mais j'aime bien ce que vous avez dit aussi sur le fait que parfois elle est sur la table de nuit et que ça suffit. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a plein de difficultés, de troubles érectiles de personnes qui finalement ne sont pas tellement dues à des problèmes physiologiques, mais plus à de l'anxiété, même sans être avalée, elle guérit l'anxiété.
Voilà, Marie-Flore Lasland, sexologue et sexothérapeute à Strasbourg. On parlait sexualité après 60 ans avec le best-of, le meilleur d'à votre écoute jusqu'à 10h sur France Bleu Alsace.
France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute, François Pingano.
Maxime Dillinger, en ce lundi férié, nous fait le plaisir de nous parler d'un projet complètement fou sur France Bleu Alsace.
Oui, au cabinet Meyère. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est le cabinet d'architecture qui est Place des Vosges, un gros cabinet d'architecture qui a reçu finalement l'autorisation enfin tant attendue depuis quand même pas mal d'années de prendre en charge le projet au complet de la construction de la seconde flèche de la cathédrale de Strasbourg. Et je suis avec Gaspard. Bonjour Gaspard.
Bonjour Monsieur Dellinger.
Alors Gaspard Meyer, je suis quand même ravi parce que c'est vous qui êtes en fait le petit-fils, c'est ça, du fondateur
de Charles.
Cabinet.
Oui, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Alors vous, c'est pas l'architecture directement
non.
qui vous concerne, c'est l'argent.
Oui.
C'est la moula.
Oui, parce que... si on peut dire, oui, c'est un petit peu ça. Je suis plutôt chargé, voilà, du financement du cabinet d'architecture. Oui, c'est ça.
Alors il faut qu'on en parle quand même, Monsieur Meyer, parce que ce projet d'ambition, il est très excitant. Moi, je le trouve absolument phénoménal.
Ambitieux, hein, on peut dire. Hein,
mais ça coûte combien de construire comme ça la seconde flèche de la cathédrale?
Alors, ce n'est pas comme ça. Hein. Bien sûr, c'est une démarche qui a pris beaucoup d'années. Hein. C'est en réflexion depuis longtemps. Alors oui, si on doit vraiment chiffrer de manière globale, pour l'instant, on avoisinerait les 179 millions de budget, bien sûr. Hein, oui.
Donc, 179
oui, c'est un budget
millions,
colossal,
là, on
ouais.
a envie de savoir, est-ce que c'est un projet qui va être payé par les Alsaciens? Qui paye ça?
Alors, nous avons avant tout des subventions de la région, hein, ce n'est pas négligeable. Hein. Nous devrons mettre un petit peu la main à la poche, je ne vais pas vous le cacher, il y aura une petite... voilà, nous allons le ressentir un petit peu sur les impôts locaux, mais ce sera lissé sur 5 ans, ce sera tout à fait abordable, et c'est vraiment pour un projet, je le répète une fois de plus, qui va marquer la ville de Strasbourg. Hein.
Et est-ce que vous allez adapter, je ne sais pas, peut-être le coût d'entrée? Est-ce qu'il y a des
choses... Oui, tout à fait, c'est prévu. Alors, le coût d'entrée de la cathédrale est fixé à 8 euros en tarif plein et 5 euros en tarif réduit, et il va être augmenté à 12,50 euros d'ici la fin du projet. Pour pallier un petit peu justement et réduire les impôts locaux des habitants de Strasbourg.
Alors j'entends impôts locaux, mais j'ai cru aussi que l'Europe allait mettre aussi un petit peu.
Oui, bien sûr. Nous avons eu des subventions, hein, que ce soit nationales ou européennes, parce que bien sûr Strasbourg a quand même une place de choix, hein, dans l'Europe. Je le rappelle à nos auditeurs voilà, on a besoin de se mettre un petit peu en avant, de rattraper ouais. peut-être le retard en termes d'image, et ce serait l'occasion de le faire, de briller un petit peu à l'international.
Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans ces 179 millions? C'est quoi le plus cher?
Alors, beaucoup de choses coûtent assez cher, mais si on peut retenir vraiment une dépense colossale, ça va être vraiment l'acheminement du grès des Vosges. C'est vraiment un nombre de tonnes très très important pour le grès des Vosges.
Alors, pour le moment, voilà, on a quelques indices. Vous savez qu'il y aura du grès des Vosges, il y aura aussi beaucoup de métal. On va voir ça dans le prochain quart d'heure, parce que justement, avec le designer, on va s'intéresser au projet concret et puis sa mise en application, c'est pour quand? Et bon, on voit ça dans quelques minutes, mon cher François.
Merci Maxime, c'est passionnant. En tout cas, on vous suit avec attention pour ce projet titanesque, pharaonesque, bien sûr, digne des plus grandes constructions dans le monde. Et puis le best-of d'À votre écoute à suivre dans quelques instants.
France Bleu Alsace, à votre écoute.
À votre écoute, c'est le meilleur jusqu'à 10h sur France Bleu Alsace. On replonge dans ces délicieux moments que vous nous faites vivre chaque jour. Merci encore de votre participation. Et la suite, c'est avec une thématique qui vous a fait beaucoup réagir concernant les arnaques dans le numérique, les arnaques sur Internet et sur les téléphones portables, avec Joël Hirion, brigadier chef de police chargé de communication à la police nationale du Bas-Rhin. Et le témoignage, entre autres, de Viviane, qui a su se défendre face à une tentative qui, finalement, s'est avérée ridicule pour l'arnaqueur.
Alors moi, je reçois en une semaine 2 SMS. Coucou maman, c'est moi. J'ai perdu mon téléphone. Voici mon numéro. Mais contacte-moi d'abord par WhatsApp.
Et qu'est-ce que vous avez fait, Viviane, alors?
Bah, rien du tout. J'ai écrit « j'ai pas d'enfant
». Ah oui, vous avez du bol. Mais moi, Joël, hors antenne, je disais, ça arrive de plus en plus souvent.
Ah, c'est horrible.
Et malheureusement,
j'ai reçu aussi un courrier de la gendarmerie nationale, oui. du pôle pédopornographique, me disant que j'ai chargé je ne sais pas combien de trucs pédopornographiques sur mon ordinateur, et que je ne payais pas une amende de 480 euros, ouais. j'allais être mise en prison.
Ça c'est pas
assez. C'est bien votre jeu, hein, voilà.
Alors moi, comme c'est je charge pas payé, quand même. Chose, c'est direct poubelle, quoi.
C'est clair, c'est exactement ce qu'il faut faire.
Je voulais revenir sur le SMS pour qu'il se fait passer pour des enfants.
Ah non, mais les SMS, c'est récurrent.
Quand on est parent, qu'on reçoit ce genre de message, Joël, c'est la panique totale. On réfléchit pas.
Bah, le principe de l'escroc, c'est d'attirer votre curiosité, de créer une panique, de créer une peur, créer un besoin, de créer l'envie de cliquer, de répondre à cette arnaque. Donc, madame, effectivement, vous avez bien, quand même bien réagi, mais effectivement, la première chose à faire si on reçoit ce genre de SMS, c'est, normalement, on a le téléphone de son enfant dans son répertoire, c'est d'appeler directement.
Voilà.
Et là, très souvent, la personne sera...
au bout du fil, puisqu'elle n'aura pas perdu son portable.
Elle ne perd pas son téléphone. Voilà.
Après, ça peut arriver. Si on ne passe pas à la panique tout de suite, c'est sûr, comme disait François, c'est, voilà, le palpitant s'agite.
Je conçois que si c'est la panique quand vous avez des enfants qui sont à l'étranger et que vous avez ce genre de message, vous pouvez les contacter. Là, oui, complètement, je conçois qu'on soit paniqué.
Bon, Viviane, et puis vous arrêtez avec ces images cochonnes, hein, Viviane, et surtout.
Oui, non, mais je vais essayer, ça va être dur, hein, mais voilà.
Bon, passez une belle journée, merci de ce témoignage.
Merci, au revoir, Viviane.
Il y a Nicole qui veut parler de son mari qui lui a été victime de cette fameuse arnaque. Vous en avez entendu parler, Joël, mais c'est Nicole qui va nous en parler. Bonjour Nicole.
Mon mari a eu une fois pendant la nuit un SMS comme quoi il doit payer un PV. Et mon mari me réveille et je lui dis « Ah, mais c'est une arnaque ». Mais sauf que ceux-là qui ont envoyé l'arnaque à mon mari, ils ne savent pas qu'il est aveugle. J'ai dit « À la rigueur, il pourrait avoir un PV s'il fait l'excès de vitesse avec sa canne blanche ou s'il fait l'excès de vitesse avec son chien guide ».
Vos auditeurs ont particulièrement d'humour aujourd'hui, je trouve, c'est très agréable.
Je vous applaudis, Nicole.
Voilà, là, vous avez identifié tout de suite le mal, mais effectivement, il y a beaucoup de SMS comme ça qui sont en circulation. Alors, je rassure les auditeurs de France Bleu Alsace, la police nationale ne vous contactera jamais par SMS. On vous envoie toujours... surtout en pleine nuit. Non, alors là je sais ce que vous allez dire. La police ne travaille pas la nuit. Mais il est...
Non,
mais vous êtes taquin aujourd'hui.
Je ne pensais même pas à ça. Il y a un policier qui s'adore aussi, sauf ceux qui sont de permanence. Mais bon,
exactement.
D'ailleurs, je salue tous vos collègues qui nous écoutent, d'ailleurs.
Donc, la police nationale, quoi qu'il arrive, vous étiez verbalisé, vous recevez le fameux petit courrier que beaucoup de gens ont déjà eu, et qui vous donne la marche à suivre, mais absolument pas par SMS. Là, c'est tout simple, vous voyez le mot PV dans un SMS et hop, poubelle. Et alors, c'est vrai que on a dit depuis le début de l'émission d'effacer, c'est une bonne chose, effacer et bloquer le numéro. Si c'est comme moi j'ai dans mon répertoire plus de numéros bloqués que de numéros pas bloqués. Mais on en arrive là malheureusement.
D'ailleurs, j'arrive plus à vous appeler, hein, Joël. C'est terrible.
C'est vrai.
C'est incroyable. Vous m'avez bloqué aussi. Bon, Nicole, merci de ce témoignage. Et puis, saluez votre mari de notre part, en tout cas.
Il n'y a pas de souci, vous.
Et merci pour votre
belle journée à vous.
En tout cas, ça nous fait
merci
du bien
beaucoup.
Aussi. Le best-of du meilleur dans votre écoute. Mais oui, le best-of du meilleur, c'est un pléonasme, hein, bien sûr. Sur France Bleu Alsace, on en parlait d'arnaque, hein, sur Internet avec Joël Hérion, qu'on retrouvera très prochainement sur France Bleu Alsace, brigade des chefs de police chargée de communication à la police nationale du Bas-Rhin.
France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
Dans quelques instants, on va revenir avec Maxime Dillinger et ses invités sur ce projet titanesque, c'est plus juste de dire comme ça. Ah bah oui, c'est férié aujourd'hui, même pour mon vocabulaire, dites donc. Avec une auditrice, Jacqueline, qui avait envie de réagir sur ce projet. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour.
Alors Jacqueline, qu'est-ce qui vous titille dans ce projet de deuxième flèche de la cathédrale?
Bah, écoutez, je voulais vous appeler pour exprimer mon mécontentement, hein, parce que là, ce que je viens d'entendre, ça me plaît pas du tout.
Qu'est-ce qui vous plaît pas en fait?
J'ai entendu là que le Gaspard, il a dit que on allait devoir peut-être payer en plus des impôts.
Ouais, bah oui.
Vous croyez pas que c'est déjà assez difficile comme ça?
Ouais, parce que quand on chiffre le projet, il est à 178 millions, je crois, d'euros. Avec des aides européennes, mais pas assez, bien sûr. Et du coup, les Strasbourgeois et Strasbourgeoises, pour parler comme les politiques, vont devoir mettre la main à la poche. Et ça vous fait mal, Jacqueline?
Ah bah non, mais écoutez, François, c'est pas possible ça. Enfin, on se fout du monde quand même. Hein. Écoutez, moi, je vais être honnête avec vous.
Oui.
Là, déjà, je suis en train de préparer la choucroute pour toute ma famille, là, pour le repas de Pâques.
C'est bien.
Quand on achète déjà toute la viande chez le boucher, ouais. Quel prix déjà ça coûte de faire ça?
Ouais, c'est vrai, vous avez raison.
Vous vous rendez compte de ça? Et pourquoi, en plus, il a dit une deuxième tour, mais enfin une deuxième tour. On a déjà une tour, c'est ça qui fait la beauté de notre cathédrale.
Tiens, on appelle ça une flèche, hein, si je puis me permettre, Jacqueline.
Oui, bon.
Excusez-moi.
Ne jouez pas sur les mots non plus. Hein.
Oui,
vous êtes un petit peu coquin ce matin. Hein.
Désolé, bah, comme d'habitude, vous me connaissez, Jacqueline. Hein, vous savez, j'aime bien vous titiller aussi. En tout cas, merci de ce témoignage. Et puis peut-être une manifestation qui pourrait être organisée au pied de la cathédrale.
Je veux bien être tenu au courant, oui, je serai là.
Écoutez, on va demander aux auditeurs de réagir aussi au 03 88 25 15 15. Passez une belle journée, en tout cas, Jacqueline, et bon lundi de Pâques. Hein.
Merci, à vous aussi, François. À bientôt.
Une choucroute quand même, un lundi de Pâques. Bon, enfin bref, faites comme vous voulez.
France Bleu Alsace, 9h-10h, à votre écoute.
Beaucoup d'appels hein, pour nous parler de ce projet qui scandalise beaucoup d'auditrices et d'auditeurs de France Bleu Alsace qui vont être obligés de mettre une nouvelle fois la main à la poche pour devoir payer. Alors déjà, quand on doit payer pour aller sur la plateforme, si en plus il va falloir payer pour visiter ce nouveau projet pharaonique, on en parle de ce projet avec ce cabinet d'architectes qui nous fait le plaisir de nous recevoir aujourd'hui. Maxime Hillinger, à votre micro, il y a encore beaucoup de monde à écouter.
Oui. Alors, je comprends, en effet, quand on entend 179 millions d'euros, ça peut faire peur, mais écoutez le projet maintenant, parce que là, on a parlé argent, on a parlé financement, on a parlé voilà du cabinet, et maintenant, on va s'intéresser aussi à quoi elle va ressembler, cette possible flèche, avec justement le designer. C'est lui donc qui a dessiné les traits, ensuite, c'est l'architecte qui va mettre en application, mais Conrad, je rappelle, c'est donc vous, le designer, il y a une idée, c'est le symbole de l'Alsace qui va être représenté, mais de façon absolument titanesque.
Tout à fait, la cigogne strasbourgeoise, l'emblème alsacien. On voulait créer un bec de 120 mètres de haut sur la façade est, en cuivre, qui pourrait s'ouvrir deux fois par an.
Ok.
Donc voilà, c'est très ambitieux, mais c'est une manière d'inscrire la cathédrale dans la modernité.
Et pourquoi le bec de cigogne, finalement ?
Ça, c'est... Eh bien, parce que c'est un symbole. La ville de Strasbourg est la capitale du livre, c'était la ville de Tommy Ungerer, c'est une ville pleine de fantaisie, donc c'est une chose qui n'a jamais été vue ailleurs auparavant, donc on a été très contents quand on a appris que notre projet a été retenu, car c'était le plus original, à mon avis.
Et en plus, ce bec, alors là, il est déjà gigantesque, mais il va avoir une particularité, c'est qu'il va pouvoir s'ouvrir à deux moments clé dans l'année.
À chaque solstice de l'année, exactement. Afin de laisser passer une lumière naturelle à l'intérieur de la tour.
D'accord. Donc là, et ça, c'est vraiment... Il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton et ça ouvre le bec ?
C'est un système mécanique qui va se faire automatiquement. Il n'y aura personne pour activer les commandes. Seulement un système d'utilisation et d'exploitation.
Donc on a le bec qui va être en métal et on va avoir du grès aussi à la base. Tout ça va s'orchestrer, tout ça va se matérialiser comment ? On va avoir une suggestion de la cigogne.
Alors imaginez que cette tour sera en deux parties. On a une partie solide, une structure en grès qui s'harmonisera tout à fait avec la cathédrale, puis toute la partie bec mobile qui sera en revêtement de cuivre qui va s'oxyder avec le temps et devenir vert comme beaucoup de toits de la ville de Strasbourg.
Vous n'avez pas peur de créer un déséquilibre lorsque vous voyez l'autre tour à côté, traditionnel, patrimonial, et là à côté ce bec de cigogne en métal, en cuivre.
Ce bec sera moins grand que la tour principale qui doit rester la star de la cathédrale, j'ai envie de vous dire. Cette tour principale de 140 mètres, nous notre bec, on l'a pensé à 120 mètres, un peu moins haut, un peu plus en harmonie avec le décor, et tout a été pensé justement pour ne pas dénaturer la cathédrale.
Bon ben voilà qui va rassurer nos auditeurs, le bec principal ne dépassera pas la grandeur de la taille d'origine de la flèche actuelle que l'on voit. Néanmoins, voilà, si vous voulez réagir, hein, 03 88 25 15 15, François. Hein.
Mais ça appelle beaucoup, on nous dit simplement qu'on espérait que cette flèche serait en verre et qu'elle reflétera un prisme au solstice pour compenser la perte du rayon vert. C'est une idée comme une autre. Maxime Hillinger, on revient avec vous juste après les infos de 10h pour parler de ce projet pharaonique.
France Bleu Alsace, à votre écoute.
On finit le best-of de votre écoute en beauté, un changement climatique qui provoque aussi un changement dans nos habitudes et le jardinage qui en fait partie. Il faut s'y changer comme nous l'a très justement dit récemment Didier Helmstetter, qui vous donne rendez-vous d'ailleurs le 9 avril prochain au musée Wurt à Erstein, auteur de 3 ouvrages autour du potager du paresseux. Didier Helmstetter qui peut lui aussi faire des erreurs, la preuve.
À la conférence à Erstein que vous avez évoquée, j'ai confessé que j'ai cru qu'en couvrant bien le sol, en prenant un certain nombre de dispositions, on pouvait jardiner sans arroser. Je l'ai même dit. Hélas, c'était une connerie. Parce que je n'avais pas anticipé l'ampleur du changement climatique. Savez-vous qu'à Strasbourg, l'augmentation de température ces 30 dernières années est 2,5 fois supérieure au chiffre du GIEC. Ça va incroyablement plus vite chez nous que dans le reste de la France, et ça va plus vite en moyenne en France que par rapport au chiffre connu du GIEC, qui lui est global, c'est-à-dire à l'échelle du monde. C'est facile à comprendre, 2/3 de mer, 1/3 de terre, et ça se réchauffe lentement. Sur les continents, ça se réchauffe un peu plus vite, et plus on s'éloigne de la mer en France, et plus ça se réchauffe plus vite. Donc quand vous entendez le chiffre du GIEC, dites « Ok, je ne jardine pas en GIECI, qu'est-ce qui se passe chez moi à Strasbourg ?» Et là, ça va incroyablement plus vite. Pas seulement sur les températures, ça affecte plein d'autres facteurs. L'ensoleillement qui est très important pour les plantes, les températures minimales remontent aussi très vite. Ce qui, pour un jardinier intelligent qui a oublié d'imiter son père ou son grand-père, ça devient une opportunité. Mais qu'est-ce qu'on attend quand à Noël il fait doux? Moi j'ai semé entre Noël et Nouvel An. Le radis en Alsace, vous trouverez sans doute des vieux guides, on vous dira de commencer les radis en mars ou en avril. Ouais. Moi je les mange en ce moment.
Ah oui.
Oui, oui, je mange des salades.
Des salades aussi.
Je mange la roquette.
Vous parlez du paillage par rapport à... En fait, c'était par rapport justement à ces sécheresses qui nous frappent, hein, et dans toute la France d'ailleurs, hein, puisque beaucoup de régions sont impactées, l'Alsace aussi. On le sait d'ailleurs que le centre Alsace et la région de Colmar aussi est la ville la plus sèche de France. La solution, c'est quoi alors finalement, Didier Hemstetter?
Alors, face à ça, deux axes majeurs. Un, pour un certain nombre de plantes qu'on ne pourra de toute façon chez nous cultiver qu'en été. Ce que j'appelle très élégamment dans mon troisième livre, les chochottes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il fait moins un, c'est cuit, il n'y a plus personne.
D'accord.
Tomates, aubergines, poivrons, piments, etc.
C'est avec qui on fait la ratatouille.
Voilà, voilà, voilà. Donc là, pas moyen de cultiver en dehors de l'été. On va... il faut stocker de l'eau. Il faut stocker des quantités considérables d'eau, ordre de grandeur. En été, il manque par mètre carré 150 litres d'eau.
Ah oui, effectivement.
Voilà, c'est ce que ça s'appelle le déficit.
Il faut récupérer l'eau.
Donc il faut récupérer l'eau de pluie quand il y en a trop en ce moment, pour l'avoir à disposition. Pour information, potager du paresseux, j'ai 30 mètres cubes de capacité de stockage, 30 000 litres. C'est un investissement sérieux. Le deuxième axe, c'est de cultiver beaucoup plus tôt tout ce qui n'est pas chochotte, tout ce qui n'est pas frileux. Cultiver très très tôt, il fait doux à Noël, on sort et on sème. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a toujours un côté aléa dans l'agriculture. Surtout septembre, octobre, novembre, on tire une deuxième arrière-saison où tout à coup il pleut, tout à coup l'air est plus humide, et tout à coup le jardinier constatera dans son transat, parce qu'il est devenu paresseux, il va constater que les légumes explosent, la croissance est tout à coup incroyablement active.
Eh oui, Didier Hemstetter qui vous donne rendez-vous le 9 avril au musée Wurth à Erstein, donc à partir de 17h pour cette conférence gratuite sur comment adapter sa façon de jardiner au changement climatique. La suite, ce sera dans Bienvenue chez vous après les infos de 10h, et puis on continue de découvrir ce projet pharaonique sur France Bleu Alsace avec Maxime Bienger. Bref, un programme encore très alléchant.